Vous êtes bien à l'écoute d'RFI, 2h à Paris, 1h temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Une tentative du chef de la diplomatie française pour jouer les médiateurs entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Jean-Noël Barrot s'est entretenu ce jeudi avec Félix Tshisekedi. Il a répété au président congolais que Paris condamnait le soutien rwandais au M23. Le ministre français des Affaires étrangères s'est ensuite rendu à Kigali où il doit maintenant rencontrer Paul Kagame, le président rwandais. Trois nouvelles libérations d'otages israéliens dans un contexte houleux ce jeudi. Une mise en scène du Hamas à Gaza pour l'une d'elles a été dénoncée par les autorités israéliennes. En retour, elles ont suspendu plusieurs heures la libération de 110 Palestiniens avant de finalement reprendre ce processus. En Syrie, le tout premier discours à la nation d'Ahmad al-Shara, le président par intérim entend donner la parole aux différentes composantes politiques au sein d'une conférence de dialogue national. Et puis aux États-Unis, les deux boîtes noires de l'avion qui s'est abîmée non loin de Washington mercredi soir ont été retrouvées par les enquêteurs. 67 personnes sont décédées. La ville de Bukavu sous la menace d'une avancée rapide du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est l'inquiétude partagée ce jeudi par Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, qui dit disposer d'informations crédibles sur ce scénario. Il évoque également des informations faisant état de mouvements des forces de défense rwandaises à travers la frontière dans cette direction. Le Rwanda, qui est ciblé par les critiques de la communauté internationale pour son soutien au M23, pour tenter d'apaiser le conflit. Le chef de la diplomatie française est en ce moment à Kigali où il va rencontrer le président rwandais Paul Kagame ce vendredi matin. Avant cela, Jean-Noël Barrot était ce jeudi à Kinshasa pour s'entretenir avec le président congolais Félix Tshisekedi. Alexandra Branjon.
Une heure de discussion entre le président Tshisekedi et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Côté français, il s'agit de réitérer la position de Paris, à savoir la France condamne l'offensive du M23 et des forces rwandaises. Le M23 doit se retirer des territoires dont il a pris le contrôle et les forces rwandaises doivent quitter instamment le territoire congolais. Avec cette visite, Paris souhaite rappeler que la France est un allié stratégique de la RDC, ajoute une source diplomatique française, et qu'elle déploie tout son arsenal diplomatique pour trouver une solution à la crise dans l'est du pays. Côté congolais, on se dit satisfait de l'échange. Dans un communiqué, la présidence rappelle que la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU avec un droit de veto et a apporté un soutien important à la RDC lors des deux dernières réunions urgentes de cet organe. Mais la RDC attend un peu plus d'action, précise le communiqué. Selon une source présidentielle congolaise, Kinshasa attend beaucoup de la France, notamment que Paris fasse pression pour obtenir des sanctions onusiennes contre Kigali, à défaut du retrait des troupes rwandaises de RDC. Alexandra Branjon, Kinshasa, RFI.
Un accroc de plusieurs heures dans l'échange de prisonniers entre le Hamas et Israël. La libération prévue des 110 détenus palestiniens a été retardée de plusieurs heures ce jeudi. Le gouvernement israélien attendait en fait d'avoir la garantie que les prochaines libérations d'otages à Gaza se fasse en toute sécurité. La raison, c'est le cadre dans lequel ont été relâchés trois otages ce jeudi à Khan Younes à Gaza, entourés d'une foule très énergique et de combattants cagoulés et armés du Hamas et du djihad islamique. À Tel Aviv, des centaines de personnes ont assisté à cette scène devant un écran géant, Muriel Paradon.
Sur un écran géant, place des otages à Tel Aviv, des images d'un chaos indescriptible en provenance de Gaza. Arbel Yaoud, une des otages israéliennes, apparaît entourée par des hommes armés du djihad islamique et du Hamas. Elle tente de se frayer un chemin à travers la foule. L'air apeuré, la jeune femme rejoint finalement une voiture du CICR. En regardant ces images à Tel Aviv, Daniela regrette la situation.
Oui, c'est le bazar et on pense aux familles qui voient ça à la télévision. Les otages sont relâchés dans un contexte très violent. On doit trouver une autre façon de faire, qu'ils regagnent leur maison en sécurité aujourd'hui, demain et après, tous les otages.
Quelques heures plus tôt, la soldate Agam Berger est relâchée, elle, dans le calme, d'un autre endroit de Gaza. Yael, qui assiste à cette libération devant l'écran géant, ne peut retenir ses larmes.
C'est juste incroyable. Elle est vivante, elle a l'air de bien aller. Elle sera bientôt réunie avec sa famille qu'on connaît. Moi, j'étais observatrice de l'armée il y a 10 ans. Ça aurait pu être moi ou une autre. Ce qu'on ressent, c'est une joie immense.
De la joie, mais aussi de l'angoisse pour les autres otages encore retenus à Gaza. Muriel Paradon, Nicolas Benita, Tel Aviv, RFI.
Et en parallèle de ce processus de libération des 3 otages israéliens ce jeudi, 5 Thaïlandais ont également été relâchés par le Hamas. Au Proche-Orient, toujours, le nouveau président par intérim de la Syrie va faire en sorte que les différents points de vue s'expriment pour concevoir un programme politique. Lors de son tout premier discours à la nation ce jeudi, Ahmad al-Shara a promis la tenue d'une conférence de dialogue national à venir. Parmi ses priorités, également le retour de la paix civile et un territoire uni sous une seule autorité. Pour lui, c'est une confirmation de ses pleins pouvoirs. Daniel Ortega a obtenu la dernière validation de cette réforme constitutionnelle de la part du Parlement du Nicaragua. Selon le texte approuvé, le dirigeant de 79 ans, mais aussi sa femme, nommée coprésidente, géreront désormais les organes législatifs, judiciaires et électoraux, ainsi que ceux régissant les municipalités et les régions. La carte du Chili redessinée par les incendies. Plus de 80 foyers ont été enregistrés ces derniers jours dans tout le pays. 3300 hectares de forêts ont été dévorés par les flammes, notamment dans les régions du Biobío et de la Araucanía. Estefania González, la directrice adjointe de campagne à Greenpeace Chili, expose les raisons de cet emballement.
C'est une saison très préoccupante. Ce n'est pas la pire que nous avons enregistrée ces dernières années, mais le régime des feux s'est intensifié. Il a changé de modèle ces années passées. Il y a plusieurs raisons. Les conditions climatiques qui influencent bien sûr la situation avec l'augmentation des températures et nous subissons des vagues de chaleur avec des températures élevées. Mais il y a un fait pas moins important, une grande partie des incendies au Chili sont déclenchés par l'homme. Et il y a un autre enjeu important, c'est l'usage des sols. Il y a des interfaces urbaines et rurales où des populations humaines vivent dans un écosystème végétal. Et ça, c'est le risque majeur de propagation des incendies de forêt au Chili. Même s'il y a d'autres facteurs comme le changement climatique, l'aménagement du territoire, la disponibilité continue de matériaux combustibles pour le feu, dans les zones où il y a une population très proche de végétation locale ou exotique, eh bien ce sont des facteurs clairement déterminants pour comprendre ces feux au Chili.
Estefania González, jointe par Juliette Pietraszewski. Ce sont 2 précieux indices qui aideront les enquêteurs à connaître les raisons du crash aérien survenu mercredi soir au-dessus de Washington aux États-Unis. Les boîtes noires de l'avion de ligne qui a percuté un hélicoptère militaire ont été retrouvées par les enquêteurs. On l'a appris ce jeudi soir. Pour l'instant, l'agence américaine de sécurité des transports chargée de l'enquête a rappelé qu'il était trop tôt pour connaître les raisons de ce drame qui a fait 67 morts. Et puis c'est un chèque signé pour enterrer définitivement la hache de guerre entre Meta et Donald Trump. La maison mère de Facebook et Instagram a accepté de payer 25 millions de dollars pour mettre fin au conflit qui l'opposait à l'actuel président américain. Le milliardaire avait en effet porté plainte contre le groupe pour avoir suspendu ses comptes après l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Mais tout est pardonné désormais. Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, fait donc un pas de plus vers Donald Trump, Nicolas Roca.
25 millions de dollars qui symbolisent le grand écart idéologique effectué par Mark Zuckerberg en 4 petites années. Il avait condamné l'attaque sur la démocratie lors de l'assaut sur le Capitole en suspendant les comptes de Donald Trump. Désormais, il va verser 22 millions de dollars à une ONG en charge de la bibliothèque du président. Les près de 3 millions restants seront consacrés aux frais de justice. Le patron de Meta ne recule devant rien pour s'attirer les faveurs du maître de la Maison Blanche. En novembre, il lui a rendu visite en Floride et a fait un don d'$1 million à son comité d'investiture. La récompense, une place de choix aux côtés d'Elon Musk, patron de X, et de Jeff Bezos, dirigeant d'Amazon, pour voir Donald Trump prêter serment au Capitole. La ligne idéologique de Meta et de son dirigeant se met aussi à l'heure trumpienne. En plus des sorties masculinistes de Mark Zuckerberg, l'entreprise a fermé son service en charge de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, ainsi que sa division en charge de la vérification des informations.
Nicolas Rocca. Et puis pour les fans de foot conquis par ses 18 matchs de Ligue des Champions en simultané mercredi, eh bien il y avait la version Europa League ce jeudi. Parmi les principaux enseignements de cette soirée, les qualifications directes en huitième de finale de Manchester United, vainqueur du Steaua Bucarest 2-0, de Tottenham avec une victoire contre Elfsborg 3-0. En revanche, l'Ajax Amsterdam, l'AS Roma ou le FC Porto devront passer par les barrages. RFI, 2h10 à Paris, 1h10 temps universel.